J'aurais dû être 3. Donc je me présente, je suis Nico. Mais oui, non, toi tu es dans la salle, Michel. Donc je me présente, je suis Nicolas Lahaye, chercheur indépendant pour le moment et membre du collectif Pind, parce qu'on a bien voulu m'accepter et parce que je chante un peu. Et je supplée Louise Barrière qui aurait dû donc. Être là, je vais lire son intervention, mais qui pour des raisons de transport donc n'a pas pu se joindre à nous. Donc je la présente tout d'abord et après je donnerai la parole à Laurent Grune qui comme en plus tu es organisateur de la journée, je pense que ton intervention va être l'occasion aussi de faire une sorte de synthèse et si après vous avez encore des questions, nous serons là pour y répondre. Donc Louise Barrière, donc je précise déjà. Je vais majoritairement lire sa communication. Vous vous doutez bien que quand je vais dire « je », je ne vais pas parler en mon nom, mais au nom de Louise Barrière. Voilà. Et donc, Louise Barrière est donc une doctorante allocataire de l'Université de Lorraine au laboratoire Lorrain de sciences sociales de ZEL2S. Elle a fait son master sur les réseaux et les flux d'action de la scène punk nancéenne et elle le développe actuellement donc depuis la rentrée, depuis 2017, septembre-octobre 2017, donc une thèse sous la direction d'Olivier Goetz sur les festivals punk féministes en France et en Allemagne, réception et développement de la culture Riot Girl dans les scènes punk et française et allemande, et donc elle s'était proposée de faire une intervention sur les dynamiques queer et féministes dans la scène punk en Lorraine. Et donc, je vais vous lire, elle a eu la gentillesse ce matin de nous envoyer le résumé de sa communication et de nous faire un PowerPoint que je vais essayer de passer en même temps. Donc, elle le dit, je le cite, donc cette communication issue à la fois d'un travail universitaire, comme je viens de vous le dire, et d'un investissement personnel dans la scène observée, propose d'explorer des dynamiques spécifiques, donc queer et féministes, situées à l'intersection entre scène punk locale et cercle militant. Je pense que c'est pas mal de choses qu'on a déjà rappelées aujourd'hui. Donc, elle se propose de le faire des prémices de ces dynamiques à la fin des années 90 jusqu'à nos jours. Celles-ci se sont notamment concrétisées par la publication de fanzines ou l'organisation de différents festivals qui ont pris place tant en zone urbaine, elle cite Metz, Nancy, que rurale, le Beacherland en Moselle-Est. Et elles ont aussi bénéficié aussi bien de l'influence de collectifs issus du reste de la France que de pays frontaliers, en particulier l'Allemagne et la Belgique. Elle montrera que ces dynamiques s'inscrivent également dans un réseau plus large d'initiatives similaires, aussi bien au niveau national que internationale. Elle précise également qu'elle est donc dans les premiers pas de sa recherche qui est forcément incomplète vu qu'elle ne l'a, dans le cadre de son travail de thèse, elle ne l'a débuté donc effectivement qu'en octobre 2017. Sa première partie parle des initiatives punk, queer et féministes en Lorraine depuis les années 1990. Et à ce sujet, donc, sur la première image, vous pouvez voir donc une couverture de soutien d'une compilation où, pour ceux qui sont un petit peu loin, vous arrivez donc à voir un homme nu et juste en dessous marqué « Contre le patriarcat et le sexisme, homo antifacho ». Elle dit que les débuts sont timides, même si on remarque dès 1996 la sortie chez Acid Folic, un label nancéen, donc d'une compilation cassette, que vous pouvez voir, de soutien au fanzine Star, fanzine lyonnais de culture LGBT, présenté comme anarcho-queer par le label, qui consacre par ailleurs dans un de ses numéros un article critique à l'hétéronormativité et au virilisme de la scène punk hardcore, chose dont on parlait déjà dans la voiture quand on était à Épinal hier. Ce virilisme et cette tendance à donner des coups. En France, à cette époque, c'est assez novateur dans la mesure où ce sont encore les débuts d'un mouvement queer revendiqué comme tel. Le nom, il y a 15 pistes sur la cassette, 15 groupes différents, et le nom des groupes, pour certains, est à l'avenant, donc bon. Du classique Undone, Primitive Bunko, Diamondes, Hobston, peut-être This Beer, Seven Minutes of Chias, peut-être une référence au groupe de Reno Seven Seconds, Uneven, Sapo, Dammer, sûrement une référence au serial killer américain, What's Wrong, Necrospasme E120 de plus. Certains sont donc des groupes locaux issus de la scène comme de la région comme What's Wrong qui viennent des Vosges ou de l'Est de la France comme Sapo de Besançon, Audincourt. D'autres viennent du reste de la France, on cite Poitiers, on cite Bordeaux, on cite Saint-Étienne. Voire même d'autres pays, donc Damer du Québec et Necrospasme E122+ de Suisse. On reste malgré tout dans la francophonie, même si elle remarque déjà que la scène Lorest où elle hésite autant entre... je ne dis pas qu'elle hésite, le terme a échappé, mais elle met pas de distinguo entre Lorraine et Est de la France. Et elle dit qu'elle n'est pas isolée, mais qu'elle s'inscrit dans des réseaux à la fois nationaux et internationaux. Ces réseaux s'appuient d'ailleurs sur un goût pour un style musical précis, celui dont on parle aujourd'hui, et une éthique qui dépasse même la musique, donc le côté revendicateur pour le queer et autres. Sur la pochette de la cassette, elle le dit d'ailleurs, on peut lire que celle-ci ne peut être vendue sans son livret. Les acteurs qui sont derrière cette production marquent ainsi leur volonté de diffuser des idées politiques et pas seulement de la musique, dans la mesure où le livret en question comprend un entretien de l'auteur du fanzine Star, ça doit être l'image sur la gauche, qui porte sur son engagement ainsi que les paroles des chansons. Musique et politique sont ainsi inséparables. Moi, à titre personnel, ça me fait écho aussi à une compilation qui s'appelait Les héros du peuple sont immortels, Abat toutes les armées, où la compilation, donc avec Nuclear Device, Logic von 88, il y avait un petit fanzine avec un entretien avec un objecteur de conscience pour montrer que on pouvait aimer ces groupes-là, mais on avait aussi quand même l'inclusion du petit livret qui était assez importante. Les paroles sont par ailleurs quasiment toutes porteuse d'un message politique, que celui-ci soit directement en lien avec l'objet du magazine ou pas. Elle cite des exemples de groupes qui parlent de libération animale, ça fait écho encore à des choses qu'on a dit tout à l'heure, ou de musique et de capitalisme. On connecte de cette manière la lutte contre l'homophobie et le sexisme, on la relie avec d'autres luttes, l'anticapitalisme en général, mais aussi l'antiracisme, l'antifascisme, l'antispécisme, et donc des revendications pour la libération animale. Les groupes musicalement qui figurent sur la cassette sont principalement issus des scènes hardcore, crust, grind, qui sont, elle le dit, parmi les plus politisés, mais qui restent quand même pour autant, et surtout à l'époque, masculines et hétéronormées. En outre, ce sont probablement des groupes qui n'évoquent plus grand-chose dans la scène punk aujourd'hui, et a fortiori dans les milieux queer. Mon analyse moi, personnel que j'en fais, c'est peut-être aussi parce que les groupes n'ont pas forcément duré très longtemps et qui n'ont pas, ou très peu, laissé de traces. De toute façon, elle reprend, à cette époque, la scène punk est en général assez peu mixte, comme en témoigne un extrait d'entretien avec un membre de la scène punk nancéenne, actif depuis les années 80, donc dans différents rôles, que ce soit membre d'un label, musicien, organisateur de concerts. Elle ne donne pas son nom dans ses notes. Je cite donc. Après, en termes simplement numériques, oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de monde dans les années 90. Je parle aussi bien des gens acteurs, actrices, que des consommateurs, des consommatrices. Il y a plus de monde au concert. La scène, c'est peut-être aussi plus équilibré en matière de rapport de genre. Il y a plus de filles que par le passé. Ce milieu était quand même très masculin dans les années 90. C'est un entretien donc réalisé en juillet 2016. Dans les années 2000... Elle continue en disant que la scène punk queer connaît un petit gain d'activité avec le développement d'autres soirées et de festivals. L'organisation de ces nouveaux événements va permettre à des individus qui se sentent soit concernés par ces problématiques, donc qu'ils soient concernés donc directement, soit qu'ils soutiennent ces problématiques, elle va leur permettre de se rencontrer dans des espaces qui leur sont dédiés, les soirées et festivals, donc favorisant la formation de réseaux, parce que ce sont des lieux de rencontre. On l'a dit par exemple avec un lieu qui nous accueille, comme celui qui nous accueille aujourd'hui. Elle se situe aussi, donc, cette scène, dans une culture de niche qui n'a pas vocation à devenir mainstream, grand public, tout dépend ce qu'on met derrière ces étiquettes. Car elle se situe, cette scène, à l'intersection de plusieurs milieux, de plusieurs scènes qui revendiquent généralement leur caractère underground, que l'on parle de la scène punk, de la scène queer non institutionnelle, et ou des collectifs féministes analogues. Dans les initiatives dont elle parle, elle évoque les queer parties, qui ont lieu à Nancy et qui sont nées donc d'une collaboration, là c'est intéressant de le noter, entre, je la cite toujours, un collectif trans-pédéguine nommé les Panthères Roses et des acteurs de la scène punk, notamment le collectif d'organisation de concerts Spiruline. ces initiatives donc, s'inscrivent dans la continuité de la compilation qu'elle a évoquée hein, en premier lieu, et où ce ne sont pas forcément dans des groupes spécifiquement queer ou se déclarant queer ou féministe qui viennent jouer. Mais en tout cas, ça permet de faire un lien avec donc, la scène punk, hardcore, globale, la programmation musicale en tant que telle, permettant d'élargir le public. Et donc, parmi les groupes programmés, on retrouve... Alors, elle ne donne pas forcément plus de détails chiffrés. On retrouve ainsi un tiers de groupes non mixtes, donc composés uniquement de femmes ou de personnes revendiquant une identité queer. Près de 60% de groupes mixtes, donc, dont beaucoup ne revendiquent aucune étiquette particulière, si ce n'est tout au plus celle d'un style musical. Je suppose le punk, le hardcore. Sur la diapositive là, donc, en s'intéressant aux affiches, on voit bien qu'il y a dans ces affiches un mélange entre une esthétique queer et une esthétique punk. Exemple, si vous regardez les deux affiches de gauche, donc une est illustrée par une paire de jambes, dont l'une porte une chaussure à talons, esthétique queer drag queen, et l'autre une chaussure, celle de droite. Donc la chaussure de droite sur l'affiche de gauche, donc une chaussure Doc Martens qui fait plus un lien avec le style punk. Sur celle du milieu, un homme se maquille, défiant, je cite, ainsi les normes de genre dans une logique queer, mais rappelant également l'esthétique du style punk des années 1970, qui jouait bien plus qu'on ne le pense parfois avec les normes du genre. Le développement du reste de la région se fait plus tardif et se trouve davantage axé autour de pratiques féministes, du moins ouvertement. Donc, que ce soit par l'appartenance à un mouvement ou à une identité queer, dans tous les cas, cette appartenance est moins revendiquée, même si les programmations des festivals abordent également des sujets comme la transidentité, etc. Voilà, pardon. En 2014 et 2015, elle évoque... À cet effet, deux éditions du festival des Beecherland Babies à Lemberg, je m'excuse pour la prononciation, en Moselle-Est, donc proche de Sarreguemines. Et elle dit que c'est un cas particulier car le festival a lieu en zone rurale. C'est d'ailleurs le seul, elle le fait remarquer, festival punk féministe ou queer punk à ne pas avoir lieu en ville. Les organisatrices, précisent-elles, sont proches de la scène strasbourgeoise. En 2017, elle fait remarquer aussi qu'il y a qu'ont lieu deux autres festivals, l'un à Metz, donc le festival des salopes pirates, qui est donc sur l'affiche juste à droite, et l'autre à Nancy, le festival No Means Low. Le festival se développe en réaction à des événements qui se sont déroulés dans la scène punk et militante. Le texte de présentation de ces festivals, donc dénonçant des agressions et plus généralement des attitudes sexistes. Elle a aussi, c'est marqué en dessous donc sur le PowerPoint, donc, que visuellement, les affiches aussi, les supports de communication reprennent une esthétique DIY typique du punk avec des collages, des textes façon machine à écrire qui rappellent notamment les fanzines. Ces deux festivals investissent des lieux de la scène punk. Donc à Metz, le festival a lieu sous le pont de l'A31, où ont lieu beaucoup de concerts sauvages. Et à Nancy, le festival a lieu à la MJC des Trois Maisons, où avaient lieu beaucoup de concerts punk, plus particulièrement avant 2014-2015. Dans la deuxième partie, elle évoque les échanges nationaux et transfrontaliers. Parmi les relations transfrontalières, elle fait remarquer que la Lorraine se trouve à un carrefour avec différents pays, et que dans ce cas-là, il y a forcément quelques relations avec la scène belge, sans doute facilitées par la pratique d'une langue commune. Elle ne fait pas remarquer d'ailleurs un peu plus haut si certains des groupes sur la compilation sont belges, mais ça aurait été une possibilité. Pourtant, peut-être il y a déjà une barrière linguistique, les échanges avec l'Allemagne ont l'air beaucoup plus minoritaires. Le festival des salopes pirates, donc si à Metz, comprenait dans sa programmation un groupe de punk sarrois, mais c'est peu. À noter aussi que les membres de ce groupe ont organisé début 2018 un festival punk féministe à Sarrebruck, la Ladyfest Sarrebruck, qui a été pour eux l'occasion d'inviter deux groupes de post-punk messins, Ruine et Aval. À ce stade, on a l'impression que les idées traversent la frontière, mais que c'est moins le cas des groupes. Que l'écart entre l'Allemagne, pays où la scène queer punk féministe est dynamique, et où la France, où elle est encore en développement, et crée une barrière. Elle prend un exemple qui sort des limites de la Lorraine, mais dans lequel elle retrouve des problématiques similaires.
Je cite. « J'ai été personnellement contacté par des gens qui souhaiteraient organiser une Ladyfest à Strasbourg et qui m'ont dit « Il n'y a pas de raison pour que tout se passe juste à Sarrebruck. » On peut aussi avoir l'impression d'une compétition avec la scène allemande qui est plus développée. Pas forcément méchante, mais où il y a davantage une volonté de valoriser et de développer la scène locale face à une scène voisine qui est très active et qui, d'une certaine manière, fait envie par sa réussite. Il y a dans la scène française, selon elle, cette idée que si l'on souhaite que la scène lorraine ou plus largement française se développe, il faut faire valoriser ses propres groupes, les faire tourner, jouer. Pourtant, même si les échanges ne sont pas forcément quantitatifs, ils sont au moins qualitatifs, en ce sens qu'ils montrent une certaine réciprocité entre les deux scènes. On constate aussi, et c'est le sens donc de ces deux dernières diapositives, qu'il y a des échanges avec d'autres régions de la France, frontalières ou non. Chaque festival semble avoir son réseau privilégié et développe de cette manière une identité propre. Bah, là, par rapport à la carte qu'elle fait, on peut voir qu'en termes de festival, on a des groupes d'origine donc néerlandaise, on en a un belge, on en a un italien, et on va jusqu'à l'ouest à Reims, Lyon, et jusqu'au sud à Marseille. Et donc, on constate, voilà. On voit bien sur la carte que les liens entre le Beacherland Beaches Festival et Strasbourg sont très développés, tels qu'elle le disait tout à l'heure. Les liens entre le Queer Fest nancéen et la scène Rhône-Alpes sont aussi développés également. C'est finalement une relation qui existait déjà à l'époque de la compilation de soutien à Star que vous avez vu en toute première partie. Globalement, les échanges nationaux montrés sur la carte restent effectivement très très concentrés sur la moitié est de la France. Le côté gauche de l'affiche, ça reste Reims. On parlait indirectement de Reims tout à l'heure avec Laurent Grune, mais c'était du foot. Et donc, ces soirées festivals ne programment pas de groupes bretons ou de groupes du sud-ouest, par exemple. Ceci ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de lien. C'est un des biais prévisibles quand on se concentre sur l'étude des festivals et leur programmation. Encore une fois, il faut préciser qu'elle est au tout début de sa recherche, donc peut-être qu'elle va aussi trouver d'autres pistes de recherche, d'autres éléments d'analyse plus pertinents. D'une part, les événements, elle le précise, ce qui peut avoir valeur de biais, cet événement ont un petit budget. Ce budget doit être réparti entre plusieurs groupes et activités. Et donc, on ne peut pas faire venir des groupes d'aussi loin qu'on le souhaiterait. Alors que les concerts sont généralement organisés en fonction des dates de tournée des groupes, ce n'est pas le cas des festivals ou de certaines soirées, comme les queer parties, dont les dates sont fixées en fonction de différents autres paramètres, qui demandent une logistique plus importante. Il n'y a plus de groupes. Il y a une programmation qui dépasse même le simple cadre de la musique, avec des animations, des débats, des échanges avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément musiciens. Et donc, de plus, cette étude ne tient pas compte de la mobilité du public. Peut-être y avait-il des spectateurs venus d'autres régions de la France. On ne sait pas. En conclusion, laissons-lui le temps de chercher. Et donc, en conclusion, pour combler ces failles qui sont en partie aussi provisoire dans son étude, eh bien, il faudrait s'intéresser plus globalement aux itinéraires des groupes revendiqués ou perçus comme queer. Il y a vraiment déjà deux façons de dire. Hein. On se revendique ou on est vu comme les autres, par les autres comme queer ou féministe. Elle le dit, j'entends par perçu des groupes qui ont l'habitude de jouer dans des événements queer ou féministes, mais qui ne revendiquent pas forcément cette étiquette. Par exemple, dans leur manière de s'autodéfinir ou par le biais de paroles de chansons. Ils sont alors définis par leur pratiquent davantage que par leurs revendications en Lorraine et dans le reste de la France. Pas uniquement à l'occasion de festivals, mais également au gré de leurs tournées. Il faudrait aussi s'intéresser aux groupes locaux qui vont jouer dans des festivals de ce genre ailleurs en France ou dans les pays frontaliers, comme elle l'avait annoncé avec les échanges Metz-Sarrebruck. Je propose qu'on l'applaudisse quand même pour son intervention. Merci. Et on fait un petit changement technique. Je... Ouais.